Avoir raison avec Robespierre. Cette phrase, il faut vouloir et pouvoir la prononcer. L'historien Marc Bloch nous avait mis en garde dans son ouvrage posthume « Apologie pour l'histoire ». Robespierriste, anti-robespierriste, nous vous crions grâce. Par pitié, dites-nous simplement quel fut Robespierre. 80 ans après ce texte, cette saine exhortation n'est toujours pas d'actualité. Parce que celui qui n'a toujours pas de rue à Paris, mais qui hante l'imaginaire politique français, celui que la fiction construisit depuis sa chute le 9 Thermidor en deux, en tyran pâle, illuminé et inflexible, exact inverse de son collègue Georges Danton, bon vivant, faillible et somme toute plus humain, celui qui fut hissé dès 1794 par ses amis devenus ennemis en incarnation unique de la terreur, avait eu l'audace de lier justement la terreur à la vertu. Cette vertu des anciens, cette vertu des Romains, de Caton à Brutus, cette vertu des devoirs sacrés et sublimes de tout homme et de tout citoyen envers la patrie et l'humanité, vertu qui permettait de rompre avec un ancien régime honni et de remplacer les vices de la royauté par les vertus républicaines, cette vertu est au cœur de cette émission Robespierre, incarnation de la vertu, avec Hervé Levers, professeur à l'Université de Lille.
La saine énergie populaire doit prendre la place des dégénérés. Le vice doit être châtié et la vertu régnée par la terreur.
Tu m'ennuies, Robespierre, avec ta vertu. Tu n'as pas volé, tu n'as pas fait de dette, tu n'as jamais couché avec une fille. Tu as toujours porté une redingote soigneusement brochée, tu ne t'es jamais saoulé. Robespierre, tu es insupportablement honnête. J'aurais honte de m'agiter 30 ans entre terre et ciel avec la même tête de puritain, uniquement pour jouir du misérable plaisir de trouver les autres plus mauvais que moi. N'y a-t-il donc rien, non, toi, rien qui parfois te chuchote? Tu mens, tu mens!
Ma conscience est pure!
Oh, la conscience est un miroir, le singe se tire la langue en s'y regardant. As-tu le droit de faire de la guillotine une cuve à lessive pour le linge sale des autres? Et de leur tête tranchée des morceaux de savon pour leurs vêtements crasseux, pour la seule raison que tu portes toi une redingote toujours soigneusement brossée? Et frappe, s'ils crachent dessus ou s'ils la déchirent, mais s'ils te laissent tranquille, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'ils n'aient pas honte de leur saleté, ne te donne pas ou pour autant le droit de les envoyer dans la fosse? Es-tu le policier du ciel? Si tu ne peux pas regarder ce spectacle aussi bien que ton cher bon Dieu, mets un mouchoir devant tes yeux.
Tu nies la vertu.
Oui, et le vice aussi.
Un extrait de la mort de Danton de Büchner, mise en scène et interprétée par Jean Villard à Avignon. C'était en plein Festival d'Avignon le 15 juillet 1948. Bonjour Hervé Levers.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur d'un Robespierre chez Fayard qui fait le point justement sur la figure de Robespierre jusqu'à aujourd'hui et qui renouvelle l'interprétation que l'on peut avoir de ce personnage. Cette vertu, où va-t-il la chercher, Robespierre ?
Robespierre va la chercher finalement à différentes sources. Il y a d'une part la source antique qui est particulièrement importante pour lui. C'est un homme qui a été formé dans les collèges de l'Ancien Régime. Il a lu les auteurs classiques, grecs et latins. Et il a été impressionné, comme beaucoup de ses contemporains, par cette vertu. La vertu de Caton, notamment, la vertu d'Aristide, la vertu des Brutus, qui est une sorte de désintéressement public qui a marqué énormément les contemporains du XVIIIe.
On dit d'ailleurs qu'il préférait Brutus à Voltaire. Alors quand on réfléchit justement à la figure des philosophes qui ont pu inspirer la Révolution française, on est étonné de cela, ce Brutus qui va tuer le tyran d'une certaine manière et qui est préférable parce qu'il croit encore à la possibilité de la République romaine et non pas à la possibilité de la dictature d'un seul homme, eh bien, il est préférable encore à Voltaire. C'est vrai cela, Hervé Levers ?
Oui, incontestablement. Les deux Brutus, d'ailleurs, l'impressionnent énormément. Il y a Brutus le Jeune,
bien sûr,
l'assassin de César. Il y a aussi Brutus l'Ancien, l'un des fondateurs de la République romaine, qui avait été représenté notamment par un tableau de David, où David le montre voyant ses deux filles s'exécuter avec l'approbation du père, parce que les deux fils avaient trahi Rome. Et ce Brutus l'Ancien, qui est un véritable modèle et qu'on va représenter dans la salle de la Convention, est aussi un modèle de service de la patrie. Il est prêt à sacrifier jusqu'à ses enfants pour sauver Rome.
Et puis, on préfère Caton à César, dit-on, quand on est Robespierre.
Tout à fait. Et il y a eu un moment, un débat sur le calendrier républicain. Et on se demandait comment appeler le premier jour des sans-culottides. Il y avait eu un débat. Fallait-il le consacrer au génie et à la gloire? Fallait-il le consacrer à la vertu? Et là, Robespierre est intervenu et a dit qu'il préférait la vertu de Caton à la gloire de César.
Alors justement, cette vertu, qu'est-ce qu'on y place quand on est un homme du XVIIIe siècle, né et grandi à Arras, arrivé au tout début de la Révolution française et faisant son parcours pendant cette Révolution? Qu'est-ce qu'on met sous ce nom de vertu?
Alors la vertu, on pourrait la traduire aujourd'hui comme du désintéressement public. C'est cette force que certains peuvent avoir de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. On a parlé de la source antique de cette vertu. La vertu, elle se nourrit aussi de la culture chrétienne qui est celle de Robespierre. Elle se nourrit aussi de sa culture professionnelle, notamment de la culture des avocats qui, depuis le XVIIe et même avant, développent tout un imaginaire autour de leur profession qui les montre comme au service du public et prêts à oublier leurs propres intérêts dans la défense des plaideurs.
Et puis, il y a aussi la figure d'un autre grand homme des Lumières, Montesquieu, qui est toute présente avec l'esprit des lois, parce que la vertu est au cœur de la pensée de Montesquieu.
Et Montesquieu est un homme qui a énormément influencé les contemporains. Son esprit des lois date de 1748. Tous les juristes l'ont lu. Il est abondamment cité à l'époque de la Révolution française, même si son nom n'est pas toujours associé aux idées qu'on lui emprunte. Et Robespierre, dès les années 1780, lui emprunte directement sa définition de la vertu. C'est l'amour des lois et de la patrie. Et c'est une citation exacte de Montesquieu. Et cet amour des lois et de la patrie, il la définit ainsi dès 1784 dans son discours qui est primé par l'Académie de Metz. Il reprend également cette définition dans les années 1790. Et notamment lorsqu'il parle de vertu et de terreur, les deux notions sont deux notions qui sont empruntées à Montesquieu.
Alors est-ce que justement cette figure de Robespierre, nourrie, on l'a compris par l'exemple des Romains et de l'Antiquité, mais nourrie aussi par les pensées de son siècle, va mettre cette vertu à exécution dans son action politique dès le début de la Révolution française, et peut-être même avant, d'ailleurs, quand il est encore avocat à Arras? Ou est-ce qu'il va falloir un certain temps pour que cela prenne dans la façon dont il pense la société?
La vertu est au cœur du discours qu'il a sur lui-même et sur son attitude, aussi bien en tant qu'avocat qu'en tant que politique. Dans les années 1780, lorsqu'il est avocat à Arras, il se présente, et les contemporains le présentent également, comme avocat des malheureux. C'est le terme qui revient souvent dans son discours. À l'époque de la Révolution, il va se présenter un peu comme le défenseur du peuple. Et le défenseur du peuple, c'est un peu la continuité de ce qu'il était sous l'Ancien Régime. Et dans ces deux attitudes, dans ces deux images de lui-même qu'il développe, il y a au cœur la notion de vertu. C'est un homme qui doit se consacrer à ses clients en tant qu'avocat. C'est un homme qui doit se consacrer à ses concitoyens, à ce qu'il appelle le peuple, avec toute la polysémie qui est derrière le mot, lorsqu'il est député ou lorsqu'il est simplement jacobin entre l'Assemblée constituante et la Convention nationale.
J'ai dit en ouverture de cette émission qu'il y avait cet ancien régime honni. Cet ancien régime ne serait pas le régime de la vertu selon Robespierre, justement?
Alors, Robespierre considère que la vertu, et là il reprend Montesquieu, c'est le principe même du gouvernement républicain. Donc pas de gouvernement républicain sans vertu. Pour le gouvernement monarchique, le principe, selon Montesquieu, c'est l'honneur, c'est un principe distant. Et c'est vrai que la dénonciation qu'il va faire du gouvernement monarchique, surtout à partir de 1788, à partir de la crise qui va précéder la convocation des États généraux, est une dénonciation qui présente l'Ancien Régime comme corrompu, corrupteur, qui ne parvient pas à défendre l'intérêt général. Et de ce point de vue-là, la dénonciation qu'il en fait, c'est celle d'un régime totalement corrompu et donc illégitime.
On a dit d'ailleurs que, alors qu'il était encore avocat à Arras, il a d'une certaine manière commencé à prôner justement ce régime républicain qui adviendra plus tard pendant la Révolution française. Est-ce que les cas qu'il plaide. Vous avez beaucoup travaillé sur ce Robespierre d'Arras, Hervé Levers. Les cas qu'il plaide sont, disons, des exemplats que l'on peut offrir au peuple pour dire voilà ce que devrait être la vertu républicaine.
La vertu qu'il défend à cette époque-là n'est peut-être pas pleinement républicaine. Il va devenir républicain au fil du temps et assez prudemment. Et républicain dans le sens du XVIIIe siècle et pas dans notre acception immédiate. Je veux dire par là que, à la différence d'un Desmoulins, qui en 1789 dit que le régime monarchique est un mauvais régime par principe, Robespierre va jusqu'en 1792 dire que la royauté, pas la monarchie, mais la royauté peut être un régime tout à fait compatible avec la République. Pour Montesquieu, l'Angleterre du XVIIIe siècle, c'est un régime républicain, parce que le peuple peut élire des députés et que ces députés peuvent participer à l'élaboration de la loi. Et Robespierre, pendant très longtemps, va rester assez proche de cette manière de voir la politique. Et on le voit vaciller un peu après la fuite du roi en 1791, en juin 1791. Là, il se demande si ce n'est pas le moment de passer à un système républicain tel que nous le voyons. Il y renonce finalement et il va devenir véritablement républicain au sens actuel du terme en 1792. Mais pendant longtemps, il considère donc qu'il y a une autre solution et que l'essentiel est ailleurs.
Est-ce que il était seul sur cette exaltation, pourrait-on dire, de la vertu, ou est-ce que la plupart de ceux qui l'accompagnaient au club des Jacobins ou ailleurs avaient une même vision justement de cette question vertueuse de la politique, de ce service de l'intérêt général?
Cette vision vertueuse de la politique, elle est largement partagée. Mais tous les hommes, si on prend les débuts de la Révolution, tous les hommes de l'Assemblée constituante, la première Assemblée révolutionnaire, ne définissent pas de la même manière cette vertu. Il y a à l'extrême gauche de l'échiquier politique des hommes comme Grégoire, comme Pétion, comme Robespierre, comme Buzot, qui en ont une vision très exigeante. Et on va le voir notamment en 1791, à propos des débats sur la Constitution, et de la manière dont le député doit concevoir son rôle. Il y a un débat notamment au mois de mai 1791 pour savoir si les députés de la première assemblée révolutionnaire, les députés de la constituante, peuvent être réélus à l'assemblée suivante. Robespierre est celui qui propose la non-rééligibilité pour ses députés. Il obtient raison et effectivement, l'assemblée décide que ses membres ne seront pas réélus en septembre 1791. Deux jours plus tard, le 18 mai, il propose cette fois que dans la constitution, on interdise définitivement à un député de se représenter immédiatement après la fin de son mandat et qu'il doit attendre donc l'espace d'un mandat pour se représenter à nouveau. Et là, il n'est pas suivi. Donc il va quand même très loin dans l'exigence. Ce qu'il craint avant tout, c'est la corruptibilité des élus. Il pense que les élus peuvent être corrompus et il faut donc prendre des mesures pour éviter cette corruption.
Et c'est là, par exemple, on entendait en ouverture ce dialogue dans La mort de Danton de Büchner, donc interprété par la troupe de Jean Villard à Avignon en 1948. C'est là que l'on présente la figure opposée, pourrait-on dire, ou en tout cas antinomique de Robespierre, c'est-à-dire Danton. Georges Danton, puisque quand il accuse Danton, à la fin de la Révolution française, il dit le mot de vertu faisait rire Danton, il n'y avait pas de vertu plus solide que celle qu'il déployait toutes les nuits avec sa femme, disait Danton. Donc il y a là deux façons de voir la vertu totalement différentes, totalement antinomiques, en tout cas vu du point de vue de Robespierre soi-même.
Voilà, et vu de la part de ceux qui ont interprété les relations entre les deux hommes, interprétation qui est née en grande partie des événements de l'année 1794, c'est-à-dire de la rupture, finalement très tardive, entre Danton et Robespierre. Mais si on prend le Danton des débuts de la Révolution, le Danton qui est le président du district des Cordeliers, avant l'invention du club des Cordeliers, ce Danton-là est finalement assez proche de Robespierre dans sa définition de la vertu. C'est un personnage qui se présente comme totalement consacré à la défense du peuple et d'un esprit républicain. De la cause publique, tout à fait. Ces deux visions du personnage, elles sont en partie construites, elles sont en partie réelles aussi, mais une réalité qui va s'imposer au fil du temps et qui n'est pas nécessairement visible au départ.
Et pour que les vertus, toutes les vertus et tous les miracles de la République, comme le dit dans le discours du 17 Pluvieux en deux, Robespierre s'oppose à ce qui existait auparavant, c'est-à-dire tous les vices et tous les ridicules de la monarchie, ça veut donc dire qu'il faut penser les vices aussi quand on pense les vertus, Hervé Levers. C'est quoi les vices que veut combattre justement Robespierre dans sa vision de la vertu?
Alors, d'un point de vue politique, les vices, ce sont, c'est tout ce qui peut mettre en cause la viabilité de la République. La vision qu'on a de la République à l'époque est une vision très exigeante, qui est en partie héritée des Romains, héritée aussi d'une histoire qu'on sait mouvementée. La République de tous les régimes est probablement, pour les hommes de la fin du XVIIIe siècle, le système politique le plus difficile à mettre en place et surtout le plus difficile à faire vivre sur un temps long. Parce que les menaces sont multiples. Et il y a la menace de l'exécutif, c'est le premier danger. L'exécutif a, d'après les théoriciens politiques du XVIIIe siècle, pour nature de prendre toujours plus d'ampleur, toujours plus de place et toujours plus de pouvoir. Donc il faut à tout prix limiter le pouvoir de l'exécutif. Et il faut ensuite se méfier également des représentants. Rousseau était contre le système de représentation, il s'en méfiait énormément. Les députés de la Constituante et ceux de la Convention vont accepter le système représentatif, mais s'en méfier tout de même, et essayer de mettre des barrières à l'action des députés pour éviter que les députés ne soient corrompus. Finalement, chez Robespierre, il n'y a qu'un seul acteur de la vie publique qui est naturellement bon, c'est ce qu'il appelle le peuple. Le peuple est naturellement bon et les députés sont corruptibles. C'est le principe de base.
Alors, c'est tout de même intéressant parce que ce terme de vertu, s'il a eu au fur et à mesure du temps, quelques succès, mais aussi s'il est tombé d'une certaine manière en désuétude aujourd'hui, on préférerait parler de probité quand on parle, par exemple, de la capacité corruptive de certains de nos élus ou de certaines élites économiques. D'une certaine manière, cette question de la vertu a été un peu écarté. Mais les mots étant piégés, quand Robespierre utilise la vertu et la terreur en même temps, mais une terreur qui ne porte pas un grand T, on en a parlé de la terreur hier dans l'émission précédente avec Marissa Linton, mais la terreur avec un petit T, que veut-il dire et en quoi cette terreur est compatible avec la vertu?
Pour comprendre son discours du 5 février, ce discours 5 février 1793, où il met en parallèle la terreur et la vertu, il faut se reporter à Montesquieu. En fait, il emprunte là des notions qui sont les notions de Montesquieu. Montesquieu avait dit « le système républicain fonctionne selon un principe qui est le principe de la vertu ». Le système despotique, le gouvernement despotique, fonctionne selon un principe qu'il appelle la crainte ou la terreur. Et le gouvernement monarchique avec le système de l'honneur. Robespierre a repris ces termes un an plus tôt et il a bien remplacé crainte par terreur dans la manière dont il présentait la pensée de Montesquieu. Et donc, le 5 mai 1794, ce qu'il explique, c'est que dans le gouvernement révolutionnaire, il y a deux principes qui font fonctionner ce gouvernement révolutionnaire, c'est la terreur et la vertu. Et ce qu'il explique finalement, c'est que Montesquieu n'a pas tout prévu. Montesquieu a prévu trois types de gouvernement, mais il y en a un quatrième. Le quatrième, c'est le gouvernement révolutionnaire, c'est celui qui permet de construire la République. Et ce gouvernement révolutionnaire...
Il est temporaire.
Il est temporaire, c'est un gouvernement qui est destiné à fonder la République, comme il l'écrit, et un gouvernement qui fonctionne donc selon deux principes. Le principe de la vertu, parce que c'est un gouvernement qui est un gouvernement républicain, mais aussi le principe de la terreur. Mais le principe de la terreur, pas comme dans le gouvernement despotique. Dans le gouvernement despotique, la terreur, c'est une terreur qui s'impose au sujet du despote. Ici, c'est une terreur que l'on n'impose pas aux citoyens, mais une terreur que l'on impose aux ennemis de la République.
Alors ces ennemis peuvent être à l'intérieur de la République, comme ils peuvent être à l'extérieur, c'est-à-dire ce sont ceux qui complotent contre l'instauration de ce régime républicain, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou qu'ils soient à l'extérieur.
Exactement. Les ennemis de la République sont, en l'occurrence, avant tout ici, les ennemis de l'intérieur, ceux qu'il faut combattre avec les lois révolutionnaires. Alors, pour comprendre ce débat de février 94, pour comprendre ce débat, il faut se souvenir qu'en fait, c'est un débat dans un autre débat. Depuis le mois de décembre 1793, il y a un doute qui s'est formé sur la nécessité du gouvernement révolutionnaire. Et certains députés, dont Danton, dont Camille Desmoulins, trouvent que la répression va trop loin et trop rapide. Et Camille Desmoulins, notamment, a lancé un avertissement au comité de salut public en disant « Attention, la République peut se transformer également ». En despotisme. Autrement dit, la République qui est fondée sur la vertu, elle peut très bien devenir un régime qui est fondé sur la terreur. Et la réponse de Robespierre, c'est de dire oui, peut-être la terreur, mais une terreur qui n'est pas contre les citoyens, une terreur qui est uniquement contre ses ennemis.
Oui, avec cette invention, disons, bizarre du terme despotisme de la liberté. C'est quoi exactement le despotisme de la liberté selon Robespierre ?
Le despotisme de la liberté contre les ennemis de la République, c'est un despotisme tout à fait distinct du despotisme de Montesquieu. C'est le despotisme qui est nécessaire pour établir la République sur des bases solides, en éliminant, puisqu'il s'agit de cela avant tout, en éliminant les ennemis intérieurs de cette République. Alors, c'est pas une notion qu'il a inventée. Marat l'avait déjà employée avant lui, mais il la reprend dans le cadre de ce discours pour bien montrer que la notion de terreur n'est pas une notion qu'il faut rejeter a priori et qu'on peut la reprendre en l'utilisant différemment de Montesquieu.
Alors, avec tout de même cette particularité de dire la vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissance. Donc on voit bien que c'est un couple qui, en tout cas dans l'esprit de Robespierre, est un couple qui est totalement lié d'une certaine manière, qui ne peut pas se séparer. En tout cas dans le contexte de l'instauration, comme vous le disiez, Hervé Levers, de cette République en train de se construire.
Oui, on a là un couple, on a un mode de gouvernement temporaire qui repose non pas sur un principe comme les trois autres types de gouvernement qui avaient été définis par Montesquieu, mais qui repose ici sur deux principes. Bon, mais encore une fois, cette justification, elle arrive assez tard. Elle arrive en février 94. Le gouvernement révolutionnaire, il est en place depuis octobre 1793. On voit bien que la théorisation a pris du temps. On a créé d'abord, on a théorisé après. Et cette théorisation tardive, elle est le fruit d'une nécessité. Il y a la nécessité pour Robespierre, comme pour le comité de salut public, de justifier les mesures qui sont prises et de justifier les choix qui sont ceux du comité de salut public, ceux du comité de santé générale également.
Est-ce que c'est entendable par ses contemporains, y compris par ses amis ? Vous mentionniez Georges Danton, vous mentionniez Camille Desmoulins. Peuvent-ils entendre ce qu'il dit quand il dit cela ? C'est-à-dire, est-ce qu'au bout du compte, c'est compréhensible par ceux qui lui sont proches ? Comme c'est incompréhensible aujourd'hui où ce terme de terreur dont on a parlé hier a été transformé par ses usages multiples depuis la fin de la Révolution française, Hervé Levers.
En février 1794, c'est un discours qui, à mon avis, est bien compris et les allusions à Montesquieu, qui ont pendant très longtemps été totalement, enfin, n'ont pas été mises en évidence par l'historiographie, elles sont comprises incontestablement par les contemporains. Et il y a cependant un danger à expliquer ainsi le gouvernement révolutionnaire, c'est la mise en évidence de cette notion de terreur qui est en train de changer de sens petit à petit, fin 93, début 94, et qui va petit à petit se transformer en une notion qui va permettre de réprouver une politique qui a été menée. Et là, pour la première fois, on a la notion de terreur qui est associée au gouvernement révolutionnaire. Ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Si on regarde l'utilisation que fait Robespierre de la notion de terreur, notamment à l'été 1793, il l'associe essentiellement à la justice révolutionnaire. Et la notion de justice et la notion de terreur sont très liées, mais c'est la justice d'exception qui doit porter la terreur. Là, on a une notion qui est beaucoup plus large et qui va évoluer au cours des mois suivants jusqu'au rejet de cette notion de terreur, tout de suite après l'arrestation de Robespierre, puisque là, les députés, juste après l'arrestation de Robespierre, vont dire « maintenant, il faut remplacer la terreur par la justice ». Et là, on a un nouveau mot d'ordre qui apparaît et qui montre que la notion a changé de sens.
Il y a, tout de même, si je vous parlais de Camille Desmoulins et de Lucile, sa femme, quand elle, vous le citez, cette lettre dans votre biographie de Robespierre, quand elle écrit à Robespierre, alors que Camille Desmoulins va être exécutée, on le sait, on le sent, cela va venir avec d'autres, mais qu'elle aussi le sera, elle lui dit, et c'est pour ça que je pose la question de savoir est-ce que c'est compréhensible, parce qu'elle joue sur un registre de sentiments, d'émotion, de proximité avec Robespierre. Elle lui dit « Cette main qui a pressé la tienne a quitté la plume avant le temps lorsqu'elle ne pouvait plus tenir pour tracer ton éloge. Et toi, tu l'envoies à la mort. » Elle lui dit « Est-ce bien toi qui oses nous accuser de projets contre-révolutionnaires, de trahison envers la patrie ? Toi qui as déjà tant profité des efforts que nous avons faits uniquement pour elle ?» Camille a vu naître ton orgueil. Donc il y a aussi cette dimension de cette vertu qui est au cœur de notre émission, mais qui transforme Robespierre en monstre d'orgueil, en monstre qui n'est plus compréhensible, voire en dictateur, Hervé Levers.
Oui, et on a parlé jusqu'à présent de la vertu telle qu'elle était définie par Robespierre et telle qu'elle était imaginée, c'est ce personnage. Mais on peut rappeler ici que cette vertu, elle est mise en cause par certains de ses contemporains. Elle est mise en cause essentiellement à partir de 1792, lorsqu'il y a ce choc entre la Gironde et Robespierre, notamment à propos de la guerre, puis dans les premiers mois de la Convention. Et là, il y a notamment un affrontement avec Gadet, au printemps 1792, un affrontement avec Louvet, à l'automne 1792, et ces deux députés vont mettre en cause la vertu de Robespierre en disant que Robespierre recherche avant tout l'approbation du peuple, qu'il devient l'idole du peuple, dit Gadet.
Il devient donc une sorte de démagogue.
C'est exactement ça. Il devient un démagogue, et là, on a une allusion directe à certaines perversions du régime républicain, notamment au temps de la République romaine, et ce que l'on craint, et c'est pour ça qu'on va parler d'ostracisme, on va menacer Robespierre d'ostracisme à la fin de l'année 1792, parce qu'on considère qu'il devient dangereux, et que surtout, sa vertu n'est pas une vertu authentique, c'est une vertu d'apparence pour lui permettre d'obtenir le pouvoir suprême.
Oui, et cela, c'est intéressant, parce que cette image-là d'un Robespierre plus fin politicien que véritable vertueux, c'est une image qui a perdurer après la Révolution française, non seulement l'image du monstre dont on parlera demain avec Jean-Clément Martin, mais cette image qui fait dire par exemple à François Furet qu'il savait jouer du jeu politique et manier un usage intelligent de l'intolérance quasi puritaine. C'est un manipulateur d'une certaine manière, dit le grand historien de la Révolution qui était François Furet, ça à la toute fin du XXe siècle.
C'est une manière de voir.
Mais justement,
tout dépend. Voilà, c'est ça. Tout dépend si on rallie l'interprétation de Louvet ou d'autres interprétations. Alors, l'interprétation de Louvet, pour aller au bout et pour bien comprendre justement la manière dont les hommes pouvaient le voir, Louvet imagine Robespierre en royaliste. Et il pense que le but final, c'est de placer le duc d'Orléans sur le trône de France. Puisque Philippe d'Orléans a été élu à Paris, il part du principe, comme Robespierre, il part du principe que Philippe d'Orléans, finalement, c'est ce pion dont les montagnards veulent se servir pour arriver au pouvoir. Et il va d'ailleurs, après sa dénonciation du mois d'octobre, publier un pamphlet contre Robespierre, et où il voit Robespierre avant tout comme quelqu'un qui veut rétablir une monarchie en France et remplacer Louis XVI par un autre monarque.
Oui, mais on sait combien l'usage de la vertu comme discours est complexe, parce qu'évidemment, je le disais en ouverture de cette émission, Hervé Levers, on préfère le bon vivant faillible et somme toute plus humain parce qu'il a des défauts et parce qu'on ne peut pas être vertueux tout le temps à celui qui se targue justement d'être le plus vertueux des révolutionnaires.
Oui, sans doute, mais si on regarde sur un temps long et notamment dans les discours des premiers républicains des années 1820-1830, c'est finalement ce côté vertueux de Robespierre mais aussi de son frère Augustin qui marque ces hommes-là. Je prends le médaillon que David d'Angers a réalisé sur le frère de Robespierre. Et sur ce médaillon, il reproduit la phrase que Augustin Robespierre a prononcée aux neuf Thermidor. C'est « Je partage les vertus de mon frère, je veux partager son sort, je demande aussi le décret d'arrestation contre moi. J'ai partagé les vertus de mon frère, je partage les vertus de mon frère. » Et là, il y a quelque chose qui va fasciner les premiers contemporains des années 1830, qui vont parfois rapprocher Robespierre de Jésus, ce qui paraît complètement incompréhensible aujourd'hui, qui vont qualifier Robespierre et Saint-Just de saints. Là aussi, toute une vision de la Révolution qu'on a complètement oubliée aujourd'hui.
Merci beaucoup Hervé Levers. Je rappelle que vous êtes auteur d'un Robespierre très fameux aux éditions Fayard et qui a renouvelé profondément la vision que l'on pouvait avoir de Robespierre. C'était donc Robespierre, incarnation de la vertu. Une émission préparée, comme toutes les autres, avec Virginie Leduo, réalisée par Laurence Malonda, avec Valentin Bobinet à la technique.